Sexta. Où l'on reconstruit l'histoire des bibliothécaires et l'on a quelques nouvelles supplémentaires sur le livre mystérieux. Guillaume voulut remonter au scriptorium dont il venait de descendre. Il demanda à Bantz de consulter le catalogue et il le feuilleta rapidement. « Il doit être par là, » disait-il. « Je l'avais précisément vu il y a une heure. » Il s'arrêta sur une page. « Voilà, » dit-il. « Lis ce titre. » Sous une seule référence, « Finis Africae », se trouvait une liste de 4 titres, signe qu'il s'agissait d'un seul volume qui contenait plusieurs textes. Je lus 1. Ars de dictis, cuiusdam stulti. 2. Sur libellus alchemicus à Égypte. 3. Expositio magistri alco fribae de Cena Beati Cupriani Carthaginensis Episcopi. 4. Liber acephalus de stupris virginum et meretricum amoribus. De quoi s'agit-il ? Demandai-je. C'est notre livre, me murmura Guillaume. Voilà pourquoi ton rêve m'a suggéré quelque chose. Maintenant, je suis certain que c'est lui. Et de fait, il feuilletait rapidement les pages immédiatement précédentes et les suivantes. De fait, voici les livres auxquels je pensais tous ensemble. Mais ce n'est pas cela que je voulais contrôler. Écoute, tu as ta tablette ? Bon, nous devons faire un calcul et cherche à bien te rappeler d'une part ce que nous a dit Alinardo l'autre jour, d'autre part ce que nous a raconté Nicolas ce matin. Or, Nicolas nous a dit que lui-même est arrivé ici il y a environ 30 ans et qu'Abbon avait déjà été nommé abbé. Avant lui, c'était Paul de Rimini, exact ? Disons que cette succession a lieu autour de 1290, à une année près, peu importe. Ensuite, Nicolas nous a dit que lorsque lui est arrivé, Robert de Bobbio était déjà bibliothécaire, d'accord ? Puis il meurt, et la place est confiée à Malachi, disons, au début de ce siècle. Écrit. Il y a cependant une période précédant la venue de Nicolas où Paul de Rimini est bibliothécaire. Depuis quand l'était-il ? On ne nous l'a pas dit. Nous pourrions examiner les registres de l'abbaye, mais je suppose qu'ils sont chez l'abbé, et pour le moment, je ne voudrais pas le lui demander. Faisons l'hypothèse que Paul a été élu bibliothécaire il y a 60 ans. Écrit. Pourquoi Alinardo se plaint-il du fait que, voilà environ 50 ans, la place de bibliothécaire devait lui revenir et qu'en revanche, elle fut attribuée à un autre ? Faisait-il allusion à Paul de Rimini ? Ou bien à Robert de Bobbio, dis-je. Il semblerait. Mais à présent, observe ce catalogue. Tu sais que les titres sont enregistrés, c'est Malachi qui nous l'a dit le premier jour, dans l'ordre des acquisitions. Et qui les inscrit sur ce registre ? Le bibliothécaire. Donc, selon le changement de calligraphie dans ces pages, nous pouvons établir la succession des bibliothécaires. Maintenant, prenons le catalogue par la fin. La dernière calligraphie est celle de Malachi, et elle couvre peu de pages. L'abbaye n'a pas acquis beaucoup de livres ces 30 dernières années. Après quoi commence une suite de pages écrites d'une main tremblante. J'y vois clairement la marque de Robert de Bobbio, malade. Là aussi, il s'agit de quelques pages. Robert ne reste probablement pas longtemps en charge. Et voici ce que nous trouvons à présent. Des pages et des pages d'une autre calligraphie. Droite et assurée, une série d'acquisitions, parmi lesquelles le groupe de livres que j'examinais il y a un instant. Vraiment impressionnante. Quel travail il a dû abattre, Paul de Rimini. Trop, si tu songes que Nicolas nous a dit qu'il devint abbé à un très jeune âge. Mais supposons qu'en peu d'années, ce lecteur vorace ait enrichi l'abbaye d'autant de livres. Ne nous a-t-on pas dit qu'on l'appelait Abbas Agraficus à cause de cet étrange défaut ou maladie, en raison de quoi il ne parvenait pas à écrire ? Et alors, qui écrivait ici ? Je serais tenté de dire son aide bibliothécaire. Mais si par hasard cette aide bibliothécaire avait été ensuite nommée bibliothécaire, c'est donc toujours lui qui aurait continué à écrire. Et nous aurions compris pourquoi il y a ici tant de pages calligraphiées de la même main. Nous aurions alors, entre Paul et Robert, un autre bibliothécaire, et lu il y a environ 50 ans, qui est le mystérieux concurrent d'Alinardo, lequel espérait succéder, lui, le plus ancien, à Paul. Celui-ci disparaît, et d'une manière ou d'une autre, contre l'attente d'Alinardo et des moines, à sa place est élu Malachie. Mais pourquoi êtes-vous aussi certain que ce soit l'enchaînement exact ? Supposez même que cette calligraphie soit du bibliothécaire sans nom. Pourquoi, au contraire, les titres des pages précédentes encore ne pourraient-ils être de Paul ? Parce que parmi ces acquisitions sont enregistrées toutes les bulles et les décrétales qui ont une date précise. En somme, si tu trouves ici, comme c'est le cas, la firma cautela de Boniface VII, datée de 1296, tu sais que ce texte n'est pas entré avant cette année-là, et tu peux penser qu'il n'est pas arrivé beaucoup plus tard. Grâce à quoi, j'ai comme des pierres miliaires disposées le long des ans. Et si j'admets que Paul de Rimini devient bibliothécaire en 1265 et abbé en 1275, tout en trouvant ensuite que sa calligraphie ou celle de quelqu'un d'autre, qui n'est pas Robert de Bobbio, dure de 1265 à 1285, je découvre une différence de 10 années. Mon maître avait vraiment un esprit très subtil. « Mais quelle conclusion tirez-vous de cette découverte ?» demandai-je alors. « Aucune, me répondit-il, rien que des prémices. » Puis il se leva et se dirigea vers Bantz. Ce dernier était bravement à son poste, mais avec un air fort peu assuré. Encore à son ancienne table, il n'avait pas osé prendre celle de Malachie près du catalogue. Guillaume l'aborda avec un certain détachement. Nous n'oublions pas la scène désagréable de la veille au soir. « Tout puissant que tu sois devenu, sire bibliothécaire, tu voudras bien me dire une chose, j'espère. Le matin où Adelme et les autres discutèrent ici des énigmes subtiles et Béranger mentionna la première fois le Finis Africae, quelqu'un nomma-t-il la Coena Cupriani ?»« Oui, dit Bantz, je ne te l'avais pas dit. » Avant qu'on ne parlât des énigmes de Symphosius, ce fut précisément Venantius qui fit allusion à la Coena, et Malachie prit une colère, disant que c'était un ouvrage ignoble et rappelant que l'abbé en avait interdit à tous la lecture. « L'abbé, hein ?» dit Guillaume. « Très intéressant. Merci, Bantz. »« Attendez, dit Bantz, je veux vous parler. » Il nous fit signe de le suivre hors du scriptorium, dans l'escalier qui descendait aux cuisines, de façon que les autres ne l'entendissent pas. Ses lèvres tremblaient. « J'ai peur, Guillaume, » dit-il. Ils ont tué même Malachie. Maintenant, je sais trop de choses. Et puis, je suis mal vu du groupe des Italiens. Ils ne veulent plus d'un bibliothécaire étranger. Je pense que les autres ont été éliminés précisément pour cette raison. Je ne vous ai jamais parlé de la haine d'Alinardo pour Malachie, de sa rancœur. Quel est celui qui lui a subtilisé sa place il y a des années ? Ça, je l'ignore. Il en parle toujours d'une manière évasive et puis... C'est une très vieille histoire. Ils doivent être tous morts. Mais le groupe des Italiens autour d'Alinardo parlait souvent de Malachie comme d'un homme de paille placé ici par quelqu'un d'autre avec la complicité de l'abbé. Moi, sans m'en rendre compte, je suis entré dans le jeu antagoniste de deux factions. Je ne l'ai compris que ce matin. L'Italie est une terre de conjuration, on y empoisonne les papes. Figurons-nous un pauvre garçon comme moi. Hier, je ne l'avais pas compris, je croyais que tout concernait ce livre, mais à présent, je n'en suis plus si sûr. Il ne fut qu'un prétexte. Vous avez vu, le livre a été retrouvé et Malachie est mort quand même. Je voudrais m'enfuir. Que me conseillez-vous ? De garder ton sang-froid. Maintenant, tu veux des conseils, n'est-ce pas ? Mais hier soir, tu paraissais le maître du monde. « Idiot, si tu m'avais aidé hier, nous aurions empêché ce dernier crime. C'est toi qui as donné à Malachie le livre qui l'a conduit à la mort. Mais dis-moi une chose au moins. Toi, ce livre, tu l'as eu entre les mains, tu l'as touché, tu l'as lu. Et alors pourquoi n'es-tu pas mort ? Je ne le sais pas. Je le jure, je ne l'ai pas touché. En vérité, je l'ai touché pour le prendre dans le laboratoire, sans l'ouvrir. » Je l'ai caché sous ma coule et je suis allé le mettre en lieu sûr dans ma cellule, sous ma paillasse. Je savais que Malachie me surveillait et je suis revenu immédiatement dans le scriptorium. Après, lorsque Malachie m'a offert de devenir son aide, je l'ai emmené dans ma cellule et lui ai remis le livre, c'est tout. Ne me dis pas que tu ne l'as même pas ouvert. Oui, je l'ai ouvert avant de le cacher, pour m'assurer qu'il s'agissait vraiment de celui que vous cherchiez, vous aussi. Il commençait par un manuscrit arabe, suivait un autre en syrien, je crois, puis il y avait un texte latin et pour finir un en grec. Je me rappelais les sigles que nous avions vus dans le catalogue. Les deux premiers étaient indiqués comme « Ar » et « Sur ». C'était le livre. Mais Guillaume poursuivait sans relâche. « Tu l'as donc touché, et tu n'es pas mort. Alors on ne meurt pas à le toucher. Et du texte grec, que peux-tu me dire? L'as-tu regardé? Fort peu. Suffisamment pour comprendre qu'il était sans titre. Il débutait comme s'il en manquait une partie. « Liber acephalus », murmura Guillaume. J'ai tenté de lire la première page, mais en vérité, je connais très mal le grec. Il m'aurait fallu y passer plus de temps. Et enfin, je fus intrigué par un autre détail, justement à propos des pages en grec. Je ne les ai pas feuilletées du tout, car je n'y parvins pas. Les pages étaient, comment dire, imprégnées d'humidité. Elles ne se détachaient pas bien les unes des autres. Et cela parce que le parchemin était étrange, plus mou que les autres parchemins. La manière dont le premier feuillet était consumé et se délitait presque m'apparaissait, en somme, étrange. Étrange. L'expression dont se servit aussi Séverin, dit Guillaume. Le parchemin n'avait pas l'air de parchemin. On eût dit de l'étoffe, mais très fine, continuait Bantz. Carta lintea, ou pergamino des panneaux, dit Guillaume. Tu n'en avais jamais vu? J'en ai entendu parler, mais je ne crois pas en avoir vu. On dit qu'elle est très coûteuse et fragile, raison pourquoi on l'utilise peu. Ce sont les Arabes qui la fabriquent, n'est-ce pas? Ils ont été les premiers. Mais on la fabrique ici aussi, en Italie, à Fabriano. Et aussi... Mais bien sûr, certes, bien sûr! Les yeux de Guillaume scintillaient. Quelle belle, quelle intéressante révélation! Bravo, Bantz! Je te remercie! Oui, j'imagine qu'ici, dans la bibliothèque, la Carta Lintea est rare, car aucun manuscrit très récent n'est venu y aborder. Et puis beaucoup craignent qu'elle ne survive pas au passage des siècles, ce qui est peut-être vrai. Nous pouvons imaginer, s'il ne voulait ici rien qui ne fût aussi éternel que le bronze. Pergamino des panneaux, hein? Bon, adieu. Et sois tranquille, tu ne cours aucun danger. Vrai, Guillaume, vous me l'assurez? Je te l'assure, si tu restes bien à ta place. Tu en as déjà fait de vertes et de pas mûres, et cela suffit. Nous nous éloignâmes du scriptorium en quittant un Bantz, sinon rasséréné et du moins plus calme. « Idiot !» dit Guillaume entre ses dents, tandis que nous sortions dehors. Nous pourrions avoir déjà tout résolu s'il ne s'était pas fourré dans nos jambes. Nous trouvâmes l'abbé dans le réfectoire. Guillaume le prit de front et lui demanda un entretien. Abbon ne put tergiverser et il nous donna rendez-vous, d'ici un court laps de temps, dans sa résidence.